VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Bamako, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Burkina Faso, face à face tendu à Ouagadougou entre les putschistes du général Gilbert Diendéré et les militaires du général Pingreno Mazagré, chef de l'état-major, qui rejette le coup d'état. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Oui, Harry, les Ouagadougou ont dormi avec la peur au ventre hier lundi, mais ce matin encore, cette peur crainte se lit encore sur les visages, puisque de part et d'autre, les positions restent toujours un peu tendues, même si et le général Diendéré et le chef d'état-major général des armées disent que le dialogue continue. Et lui et le général Diendéré estiment que il faut éviter un bain de sang, un affrontement entre frères d'armes.
Certaines informations laissaient entendre que l'armée avait commencé à désarmer le régiment de sécurité présidentielle, le fer de lance du putsch. Est-ce que c'est correct?
Non, c'est justement ce problème du dépôt des armes. Ça a été ordonné. Le chef d'état-major général des armées, dans un communiqué, a ordonné, mais ce n'est pas encore fait.
Donc le RSP, les putschistes, campent sur leur position. Ils sont toujours aux alentours du palais présidentiel et ils gardent leurs armes.
Voilà, ils sont dans leur zone et les autres aussi sont certainement quelque part. Le dialogue n'est pas rompu, c'est surtout cela que je voudrais qu'on retienne. Les émissaires et l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France et les chefs coutumiers et religieux continuent de faire le ministre de ministre entre les deux parties.
Ils font la navette entre les deux parties pour qu'on parvienne à un accord.
Les deux parties, voilà, pour qu'on n'en arrive pas à ce que personne ne souhaite, c'est-à-dire l'affrontement entre une armée divisée seulement en deux, des questions politiques.
Bon, le lieutenant-colonel Isaac Zida, le premier ministre, a été libéré. C'est ce qu'on annonçait depuis très tôt ce matin.
Oui, son directeur de cabinet, Job Ouédraogo, l'a confirmé. Le premier ministre a été libéré hier soir, lui et tous les personnels qui travaillent avec lui, puisqu'il était avec son aide de camp, ses gardes du corps, ils sont tous rentrés chez eux.
Donc, les putschistes n'ont plus d'otages. Tous les otages, les prisonniers, le président Kafando, le premier ministre Zida, les deux ministres qui étaient également retenus, tout le monde a été libéré.
Absolument, il n'y a plus d'otages dans les mains du RSP.
Que fait la CEDEAO? Est-ce qu'il y a des émissaires internationaux sur place à Ouagadougou pour essayer de trouver une solution?
Et ils se réunissent dans quelques heures à Abuja, au Nigeria. Le patron du RSP estime que tout doit se faire après l'accord définitif qui sortira du sommet des chefs d'État à Abuja.
Donc c'est la condition posée par le général Diendéré, le leader des putschistes. Ils attendent une décision à Abuja et ils accepteront cette décision quelle qu'elle soit.
Voilà. Qu'il a affirmé.
Zoumana Ronogo, notre correspondant à Ouagadougou. Les forces du général Pingreno Mazagré, chef d'état-major des armées, ont le soutien conditionnel des Burkinabés déterminés à faire échec au coup d'état de la garde présidentielle. Au premier plan de cette campagne, les centrales syndicales de la fonction publique qui ont décrété une grève illimitée depuis le début du putsch la semaine dernière. Nathalie Barge a contacté Sayouba Sawadogo, un instituteur à Léo, dans le sud du pays, qui a arrêté le travail.
Tout le pays est embrasé actuellement. Tout le pays. Je peux vous dire que même il y a des petits villages où les gens ont mis des barricades pour empêcher même peut-être des véhicules de passer. Je crois que tout le pays est concerné par cette forfaiture-là, puisque nous étions à quelques jours des élections, à un mois, puisqu'on avait précédemment prévu les élections le 11 octobre. Donc la population n'a pas accepté que ce général Pouchi vienne mettre encore en retard notre pays. Nous avons souffert pendant 27 ans et nous ne pouvons pas accepter encore qu'un militaire vienne au pouvoir. Et surtout que c'est un proche du président Blaise Compaoré, nous n'avons pas accepté cela. Et jusque dans les tout petits villages du Burkina, cela se ressent.
Alors est-ce que vous pensez que votre action, l'action de la population, a pu avoir une influence justement sur l'armée qui est descendue sur Ouagadougou?
Ça a eu une très grande influence parce qu'à Bobo, partout là où il y a des casernes, c'est la population civile qui est partie exhorter ces militaires-là à sortir pour défendre le peuple, pour dire aux militaires, quand même s'ils étaient vraiment des Burkinabés, d'essayer d'agir. Et je crois que notre appel a été entendu, puisque le général a appelé quand même les forces de l'ordre à converger vers Ouagadougou pour désarmer le RSP.
Sayouba, Sawadogo, instituteur à Léo, ville proche de la frontière du Ghana.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Guinée, les esprits s'échauffent dans la campagne présidentielle en cours. À preuve, les heurts du week-end entre partisans des candidats à la présidence qui ont fait au moins 17 blessés, Claire Morin-Gibault.
Ce sont les premiers incidents signalés depuis le début de la campagne électorale le 10 septembre. À Koundara, situé à 40 km de la frontière sénégalaise, des militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Sélou Dalène Diallo, et ceux du président Alpha Condé se sont affrontés à coups de pierre et de bâtons, faisant au moins 17 blessés. La tension était perceptible depuis samedi, lorsque les militants de l'opposition ont annoncé un carnaval à travers la ville, ce que ne voulaient pas entendre les partisans du pouvoir, a expliqué un responsable de la police locale qui a voulu garder l'anonymat. Des biens publics ont été saccagés, ainsi que des boutiques appartenant à des commerçants peuls, réputés proches de l'opposition. Par ailleurs, à Cancan, dans l'est du pays favorable au président Condé, les partisans du pouvoir armés de pierres ont empêché la tenue d'un meeting de l'ex-premier ministre Sidya Touré.
En Somalie, 5 passants tués et 13 autres blessés lundi à Mogadiscio par l'explosion d'une voiture piégée près de la Villa Somalia, un complexe ultra sécurisé abritant la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre Jean-Roger Bion.
D'après l'AFP, il n'y a eu aucun combat. Les assaillants n'ont pas tenté de pénétrer dans la Villa Somalia après l'explosion et l'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les islamistes Shebab, qui mènent régulièrement des attaques, notamment à Mogadiscio, utilisent souvent un véhicule piégé conduit par un kamikaze. Chassé depuis la mi-2011 de Mogadiscio, il contrôle toujours de larges zones rurales d'où il mène des opérations de guérilla contre les symboles du fragile gouvernement somalien ou contre la force militaire de l'Union africaine en Somalie, à Amisom. Les Chebabs ont récemment attaqué 2 bases de l'Amisom, dont un camp abritant des soldats ougandais le 1er septembre et une base du contingent burundais à la fin du mois de juin.
En Syrie, au moins 18 civils tués lundi dans un nouveau bombardement par l'armée syrienne d'un quartier tenu par les rebelles à Alep. Les explications de Lucille Hamon.
D'après Tami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un missile est tombé sur un quartier résidentiel de Shahr, dans l'est d'Alep, et l'armée a tiré des obus dans le même secteur. Il a ajouté qu'il y a au moins 18 morts et des dizaines de blessés, mais aussi de nombreuses personnes ensevelies sous les décombres. Selon un habitant, l'armée a visé un marché populaire très fréquenté. Depuis juillet 2012, Alep, l'ex-capitale économique de la Syrie, est ravagée par la guerre. L'est de la ville est contrôlé par le régime de Bachar al-Assad pendant que l'ouest est aux mains des insurgés. Selon de nombreuses ONG, le régime syrien bombarde régulièrement les zones tenues par les rebelles. L'armée attaque parfois avec des missiles qui ont fait des milliers de morts.
Le pape François termine aujourd'hui sa visite à Cuba, sa dernière étape dans le pays Santiago de Cuba, connu comme le berceau de la révolution menée par Fidel Castro, qu'il a surnommé la cité héroïque. Bagasikoura.
Santiago, deuxième ville la plus peuplée de Cuba, avait déjà reçu la visite de Jean-Paul II en 1998 et Benoît XVI en 2012. Le pape François doit rencontrer aujourd'hui des familles dans la cathédrale avant de bénir la ville qui avait beaucoup souffert du passage de l'ouragan Sandy en 2012. Il va aussi célébrer une messe dans le sanctuaire voisin de la Vierge de la Charité del Cobre, très vénérée des Cubains. La ville est un lieu de pèlerinage abritant une basilique reconnue par le Vatican. Le pape quittera Santiago en milieu de journée pour venir à Washington, première étape de son voyage aux États-Unis.
Selon le père Thomas Rosica, un porte-parole du Vatican, ce voyage en provenance de Cuba est tout un symbole. On l'écoute.
Quand le Saint-Père atterrit ici à Washington, il va entrer dans ce pays depuis Cuba. Et je crois que c'est très, très important qu'il vienne de Cuba. Après presque 50 ans de difficultés, de moments très tristes, de divisions, le pape, c'est lui-même qui a beaucoup aidé à dégeler ce qui se passe maintenant entre Cuba et les États-Unis. C'est un nouveau moment, pour, non seulement pour les deux pays, mais pour le futur. Ces jours-ci que le pape est à Cuba, il demande une profonde réflexion au peuple pour que cette nouvelle liberté, peu à peu que ça arrive, soit vraiment une ouverture vers les autres.
Le père Thomas Rosica, un porte-parole du synode sur la famille auquel le pape François va participer à Philadelphie, ici aux États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.